RCF.
C'est peut-être l'une des règles monastiques qui fait le plus parler d'elle, et pourtant, nous savons peu de choses de la règle de Saint-Benoît. Depuis le 6e siècle, c'est elle qui rythme la vie des contemplatifs. Mais y a-t-il des points communs entre la vie des moines dans leur cloître et la nôtre, agitée de mille rendez-vous, de trop de préoccupations? Eh bien, pour le frère Don Guillaume, c'est une évidence, la règle de Saint-Benoît peut dévoiler sa sagesse à chacun de nos contemporains. Frère Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Ta lumière sur ma route », publié aux éditions Salvator, un livre consacré à une étude minutieuse de la règle de Saint-Benoît. Et si elle a suscité cet intérêt chez vous, c'est justement parce qu'elle rythme votre propre vie. Vous êtes de l'ordre non pas des bénédictins, mais des cisterciens. Alors il faut peut-être, pour commencer, redire pourquoi cette règle s'applique à votre ordre.
Parce qu'en fait, les cisterciens sont une branche des bénédictins. C'est une réforme du XIIe siècle qui ensuite s'est développée.
Alors, avant d'entrer en profondeur dans l'étude et ce qui fait la saveur de la règle de Saint-Benoît, dites-nous dans quelle mesure cette règle, elle a pu vous donner envie de suivre la vocation qui est la vôtre.
En fait, la règle ne m'a donné aucune envie. Au départ, en fait, c'est plutôt une communauté qui attire. C'est parce qu'on est attiré par une communauté qu'on découvre petit à petit ce qui l'a fait vivre. Et la règle vient un peu en second, si vous voulez. Elle est comme le squelette ou la structure cachée d'une existence. Et c'est en vivant avec la communauté qu'on en découvre toutes les facettes et toutes les particularités. Mais au départ, on est plutôt attiré par une communauté.
Est-ce que les cisterciens ont gardé tous les articles, les 73 chapitres de la règle de Saint-Benoît précisément?
Toutes les communautés monastiques ont gardé la règle de Saint-Benoît dans ses 73 chapitres. Après, c'est une question d'interprétation et d'accent. Par exemple, dans la vie bénédictine, on insiste beaucoup sur l'Opus Dei, c'est-à-dire la liturgie, l'œuvre de Dieu, qui a une place très importante. Et donc, on va accentuer, si vous voulez, la place de la liturgie par rapport à toutes les autres activités. Dans la tradition cistercienne, en fait, on a une place importante à la liturgie, mais on donne une place aussi importante au travail, par exemple, dans la vie de la communauté.
Alors, vous, votre parcours, pour qu'on fasse un peu connaissance avec vous, vous êtes originaire du Pas-de-Calais, vous avez suivi des études de droit à Lille, et puis vous avez découvert le monde des cas, et vous êtes aujourd'hui cistercien en Toscane. Alors, entre deux, vous avez vécu au Burkina Faso, vous avez été aussi abbé du monde des cas, puis vous avez démissionné, et vous êtes parti en Toscane, en Italie, dans un monastère de Monial, où vous êtes aujourd'hui aumônier des sœurs, et là aussi, cette règle vous suit. Est-ce que vous avez perçu peut-être, là aussi, une différence en Italie?
Je pense que c'est plus dans l'esprit des personnes, c'est-à-dire dans la mentalité. Je prends un petit exemple. En France, on dit toujours que quand il y a une ligne blanche, c'est interdit de doubler. En Italie aussi. Mais quand il y en a deux, c'est vraiment interdit.
Vous suivez cette règle. Peut-être que vous en avez découvert tout au fil de votre engagement, de votre vocation. Peut-être que vous avez découvert des aspects de cette règle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un chapitre qui vous correspond plus particulièrement et qu'au début, c'est un autre qui vous a parlé?
Oui, peut-être que paradoxalement, le chapitre qui me marque le plus aujourd'hui, c'est le chapitre 3 de la règle, c'est-à-dire celui sur la fraternité, le conseil des frères. C'est un chapitre très beau où justement Saint-Benoît analyse tout le processus du discernement qui va permettre d'arriver à une décision. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il y a toute une manière d'essayer de comprendre comment, au fond, à partir d'une problématique, quelle qu'elle soit, on peut arriver à une décision en écoutant les autres et en faisant soi-même un travail intérieur. C'est très beau parce que ça veut dire que le dialogue n'est pas seulement une technique de communication, mais c'est aussi un travail spirituel. Et c'était peut-être pas l'accent que j'aurais mis au début de ma vie monastique. Moi, j'étais plus attiré par la solitude, le silence, le retrait. Et aujourd'hui, c'est vrai que le dialogue, le fait de cheminer ensemble à partir d'une question précise pour arriver à une solution, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que je me suis dit que ça nous construit en fait intérieurement d'une toute autre manière. Il ne s'agit pas d'imposer sa vision, il ne s'agit pas de céder à la décision de quelqu'un, mais il s'agit de cheminer ensemble pour discerner ce qui est meilleur, ce qui n'est pas du tout évident.
Et alors c'est d'autant plus amusant que vous êtes aujourd'hui dans une congrégation vous êtes aumônier, est-ce que ça veut dire que vous participez aussi au Conseil des Sœurs?
Ou
finalement,
non, pas
ce
du
chapitre
tout.
Vous intéresse parce que justement, vous n'êtes plus avec cette communauté?
Non,
et
non,
vos
non.
Frères.
En fait, je suis aussi président de la Fondation des monastères à Paris. Et à la Fondation, justement, on travaille beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se posent à nous et nous allons petit à petit, à travers le dialogue, essayer d'avancer. Mais le dialogue, non pas, si vous voulez, comme un échange d'idées. C'est vraiment un cheminement ensemble. C'est-à-dire, on se laisse transformer par l'idée de l'autre.
Dans ce livre, vous en parlez du fait que la communauté doit se rassembler, qu'elle doit porter conseil et réflexion. Avec, justement, vous le dites, il y a un peu deux écueils. On est toujours un peu en porte-à-faux quand on donne conseil, c'est-à-dire que soit on donne conseil, il n'est pas suivi, on est un peu vexé, soit on est accusé d'avoir été un mauvais conseil. Donc le conseil n'est pas facile. Et vous, ce que vous dites, c'est que, justement, en suivant Saint-Benoît, on peut arriver à avoir une autre voie qui est celle propre, on pourrait dire, aux chrétiens qui cherchent en fait la volonté de Dieu et le bien commun, d'abord.
Oui, et ici, je crois que c'est pour ça qu'il faut voir le dialogue ou le fait de donner un conseil comme une espèce de cheminement intérieur, c'est-à-dire quel rapport j'ai avec mes propres désirs, avec mes propres pensées, et comment je vais peut-être petit à petit accepter qu'il soit possible de penser autrement.
On n'impose pas son point de vue.
C'est-à-dire, je crois que c'est important de croire ce qu'on dit, mais en même temps, c'est important aussi d'écouter ce que dit l'autre, de la remise en cause et de prendre conscience que je ne vois qu'un tout petit aspect d'une situation. Et au fond, je crois que le rôle du conseil dans une communauté, c'est ça, c'est vraiment petit à petit de prendre conscience que je n'ai qu'une toute petite parcelle d'une vision d'une situation et que les autres vont m'enrichir. Et l'autre n'est plus l'obstacle qui empêche que mon idée soit la première acceptée dans la communauté, mais l'autre, c'est celui qui va m'aider à comprendre un petit peu. Et peut-être aussi comprendre mes aveuglements, parce que c'est ça aussi qui est important. Je crois que souvent, on est enfermé dans une vision des choses, dans une logique, et on ne se rend plus compte. Et je crois que le rôle vraiment du dialogue, dans cette spiritualité de communion que développe Saint-Benoît, c'est de sortir un petit peu de tout ce qui nous emprisonne intérieurement. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment un cheminement spirituel, parce que en fait, on est prisonnier de soi.
Un cheminement, une expérience spirituelle, oui. qui va, on peut le dire, un peu à contre-courant de ce qui est vécu aujourd'hui dans ce qu'on appelle justement les débats, où chacun arrive avec ses idées, mais il n'est pas vraiment question d'en sortir avec une troisième qui nous dépasserait.
Alors, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y a une manière aussi aujourd'hui de focaliser sur ce qui divise plus que sur ce qui unit, qui fait qu'on a l'impression de blocs qui s'entrechoquent et qui sont comme irréductibles, quoi. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout à fait comme ça quand même, parce qu'il y a un vivre ensemble. C'est-à-dire on se rend compte de ce qui ne va pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et à partir de là, je crois aussi que c'est peut-être toute une manière de percevoir la société. Aujourd'hui, comme il y a quand même tellement de choses qui sont partagées par rapport aux choses qui divisent, me semble-t-il.
En tout cas, c'est ce que vous vivez peut-être au sein des communautés. Moi, je voudrais revenir sur votre premier souvenir quand vous avez découvert la règle de Saint-Benoît. Vous êtes dans votre monastère et puis vous êtes au Mont des Cats en l'occurrence, puisque c'est là-bas que vous avez eu envie de poursuivre ce chemin. Vous découvrez une lecture au quotidien aussi de Saint-Benoît. Votre premier souvenir quand vous avez entendu l'abbé ou un de vos frères qui a pris la règle de Saint-Benoît?
Alors j'ai trouvé ça terriblement ennuyeux et tout à fait opaque et imbuvable, je dois dire. Et alors bon, j'ai supporté pendant plusieurs années. Et en fait, c'est seulement quand mon abbé de l'époque, donc d'André Louf, qui a commencé à commenter la règle, parce qu'au départ, c'était lu au réfectoire à la fin du repas, donc dans le bruit de la vaisselle qu'on range, etc. C'était assez inaudible.
On lit un chapitre?
On lit non.
Quelques phrases.
La règle est divisée. On la lit trois fois dans l'année. Et donc, c'est divisé. Ça dépend. Pour les chapitres très courts, on peut en lire un d'un coup. Pour d'autres chapitres, ils sont divisés par petites subdivisions. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé dans la règle, c'est à partir du moment où André Louf a commencé à la elle a commenté au chapitre, donc on avait chaque jour, le soir, la réunion communautaire, et durant une visite canonique qu'on avait eue, le père immédiat, c'est-à-dire le visiteur, avait demandé à ce que l'abbé commente la règle. Et donc il avait obéi, et alors il s'était mis à commenter chaque jour la règle pendant 5 minutes. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, parce qu'il fallait chaque jour trouver un élément qui touche la vie de la communauté sur le moment précis. C'est-à-dire que ce n'était pas une grande explication théorique, mais c'est comment ce chapitre-là, alors qu'il tombe parfois bien, parfois moins bien, pouvait aider la communauté à grandir. Et donc, il fallait trouver le petit truc à chaque fois. Et quand je suis devenu abbé, c'était mon grand défi. Donc,
parce que la tradition a perduré.
Oui, a continué. Oui. Et donc, j'ai dû commenter la règle de chaque jour. Et en fait, ça ne m'avait jamais beaucoup passionné jusque-là, je vais le reconnaître. Et en fait, c'est à la sortie des vigiles. Donc après, on avait le vigile à 3h15. Puis on sortait vers 4h30, 5h15, ça dépend. Et là, je prenais toujours le chapitre du jour que j'allais commenter le soir. Et je le lisais comme ça. Donc un peu la tête un peu vide de toute autre chose, hein, puisqu'on sortait de la liturgie, et ça, c'est très paisible. Donc c'était le moment où, au fond, je lisais le chapitre et il y avait une idée qui apparaissait. Et je trouvais ça extraordinaire, chaque jour, de renouveler cette expérience. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir me dire aujourd'hui? Et c'était un peu comme ça, en fait. Et donc, mon expérience, vous voyez, elle est en fait triple. Elle est d'abord une difficulté, une lourdeur, ensuite une découverte, et puis ensuite une découverte personnelle. Donc, c'est vraiment ces trois étapes.
Voilà, la règle de Saint-Benoît, que vous avez continué de commenter, d'ailleurs, dans un ouvrage qui s'appelle « Ta lumière sur ma route ». Merci, Don Guillaume. À demain.